En 2019, le collectif Cura lançait en collaboration avec d'autres entités culturelles françaises une vaste étude exploratoire sur la santé et le bien-être dans l'industrie musicale. À la question « L'industrie musicale est-elle en bonne santé ?», pas de réponse simple, mais un constat glaçant. En effet, selon cette étude, 4 personnes sur 5 souffrent parfois ou souvent d'anxiété, de stress, de dépression, de troubles du sommeil et de mauvaises habitudes alimentaires. Et seulement 2 personnes sur 5 sont allées chercher de l'aide, et ce surtout auprès de leurs proches, famille ou bien amis. Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, un podcast coproduit par FCMA, Artos, Pezzi et Sonart, 4 acteurs culturels majeurs des professions du spectacle en Suisse romande associés autour d'un programme commun poursuivi tout au long de l'année 2021. En jeu, en 5 sessions organisées dans des salles de concert de Neuchâtel ou Fribourg, d'Yverdon-les-Bains ou Vevey, identifier, comprendre et anticiper les problèmes liés à la santé rencontrés par les professionnels du spectacle dans notre territoire. Pour son 5e et dernier rendez-vous, ce programme s'installait dans le foyer de l'Alhambra à Genève. Le mardi 12 octobre, y était ainsi reçu Julien Jobert, alias Schkid, producteur et musicien, cofondateur du collectif français Cura, et Catherine Vazet, psychologue et gestalt thérapeute spécialiste du burn-out. Rencontre dans ce podcast avec chacun d'entre eux en forme de résumé d'une soirée où étaient discutées des solutions permettant de prévenir notre état de santé, de repérer les signaux avant-coureurs des états d'épuisement et de trouver des outils et des ressources pour déjouer le burn-out. De la santé au travail en milieu culturel, épisode numéro 5. À toutes et tous, bienvenue dans ce podcast présenté, on le rappelle, par FCMA, Artos, Pezzi et Sonart, en collaboration avec le festival Voix de Fête. Réalisation chez Umedia. Julien Jobert, salut.
Salut.
On se parle depuis un bar vide de l'Alhambra et on va commencer par le collectif que tu as co-créé. Ce collectif s'appelle Cura. Cura, c'est quoi ?
Alors déjà, c'est pas pour faire une introduction très prétentieuse, mais c'est la racine latine veut dire le soin. Donc c'est un collectif qu'on a monté entre artistes et professionnels de l'industrie de la musique en France pour réfléchir à comment est-ce qu'on prend soin le mieux des artistes. Donc voilà, on s'est fédéré autour des problématiques de bien-être et de santé dans ce secteur.
Quel itinéraire vous a mené justement à vouloir prendre cette initiative ?
Moi-même, je suis compositeur. Ça fait plusieurs années que je travaille dans ce secteur et j'ai senti des manquements, principalement à partir du moment où j'ai eu une vraie activité professionnelle. J'ai eu la chance d'être signé en tant que compositeur chez Sony Publishing. Et j'ai réalisé qu'il y avait certainement des choses en termes d'accompagnement qui pouvaient être mieux réalisées. Et comme j'étais pas certain de savoir si j'étais le seul à voir ça, j'avais pris le temps d'écrire sur ce sujet. Et à partir des mots que j'ai écrits, donc j'avais écrit sur un média qui s'appelle Yard, avec comme angle le rap français, qui est un domaine dans lequel je travaille principalement. Le fait que ce sujet ait existé m'a permis d'entrer en contact avec plein de gens qui se sont sentis qui ont eu l'impression que les mots que j'avais utilisés étaient les justes et qui m'ont permis de commencer à construire autour de cette question.
Et pour être précis, les manquements en question, c'était quoi ?
Les manquements en question, je pense que principalement, il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute. Je pense que c'est un domaine dans lequel on se lance par passion et très rapidement, on se retrouve confronté à des réalités industrielles. La pression qui peut aller des deux côtés des pôles, en fait. Ça peut être la pression de avoir eu un succès et de ne pas savoir comment maintenir ce succès, de ne pas savoir si ça fait sens de maintenir ce succès, comme la pression de croire en quelque chose et se retrouver confronté à l'indifférence, à l'échec. Vraiment, ce terme de métier passion, pour moi, c'est symptomatique du fait qu'on s'y jette vraiment sans aucune bouée. Et ma vision là-dessus, c'est que peut-être qu'on a le droit d'investir un peu dans le magasin de bouées pour en mettre plus à disposition pour ceux qui ont besoin d'accompagnement un peu pour nager de temps en temps.
La boussole en question ou la boue en question, on va en parler dans un instant. Juste avant ça, un détour par 2019. 2 ans auparavant, le collectif Cura posait cette question à travers 2 tables rondes réalisées, l'une à Paris durant la MAMA Convention et l'autre à Lyon. La question était, l'industrie musicale est-elle en bonne santé ? Ta réponse, Julien, c'est ?
Ma réponse n'est pas non. Et ma réponse n'est pas oui non plus. C'est vraiment plus une forme de oui mais. Je pense que, surtout à l'égard de beaucoup d'autres fonctions, de beaucoup d'autres métiers, ce serait parfois malvenu de se plaindre, entre guillemets, de souffrir dans cette industrie-là. Néanmoins, à la fois, peut-être une forme de vitesse et de radicalité dans ces métiers font que on peut parfois mal se sentir. On a pu prendre de mauvaises habitudes qu'on a pu penser être naturelles dans ces métiers, mal dormir, mal se comporter avec les femmes, avec les collaborateurs, avec avoir une mauvaise relation avec son public. Ça, c'est ma vision de comment on traite les réseaux sociaux, par exemple. On reçoit beaucoup d'amour, on peut recevoir beaucoup de haine. Et je pense qu'il y a toute cette agrégation de questions qui peut faire que on peut se sentir mal dans ces métiers. Et je pense que quand on se sent mal, il n'y a pas forcément quelqu'un à qui s'adresser dans ce secteur-là. Moi, je suis très contre l'état d'esprit d'approcher ces problématiques-là d'un point de vue catastrophiste, en se disant l'industrie de la musique est une usine à se jeter par la fenêtre, parce que je pense que c'est pas le cas. Mais dans certains cas, c'est très difficile à vivre, et je pense qu'il faut réussir à trouver des solutions pour que les artistes d'aujourd'hui et de demain aient une pratique de ces métiers plus saine, plus agréable.
Alors des facteurs d'anxiété et de dépression, puisque je pense qu'il faut poser des mots. On en a analysé un certain nombre dans le cadre de ce programme, santé au travail, précarité financière, bien sûr, enchevêtrement entre vie personnelle et professionnelle, pression sociale, tu viens d'en parler, Julien, décalage des rythmes de vie. C'est des symptômes qui sont persistants avec lesquels les artistes, les techniciens et techniciennes, tous les professionnels de l'industrie du spectacle vivant sont forcés de négocier. Comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce qu'on améliore une vie?
Comment on en sort? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par la communication, tout simplement. Donc on a réalisé effectivement une enquête exploratoire qui nous a permis de donner des premiers chiffres et de poser un diagnostic et de pouvoir dire que voilà, effectivement, ces questions peuvent compter. Le fait, je pense, de poser ces questions permet à plein de gens de se dire qu'ils ne se sentent pas seuls. Après, la réalisation qu'on n'est pas seul, je pense, c'est d'avoir à disposition un catalogue de gens à contacter quand c'est nécessaire. Donc on a constitué un répertoire qui est accessible gratuitement en ligne, qui n'est pas ni le premier ni le seul. Il y a une super asso lilloise qui en a réalisé un aussi, une asso qui s'appelle Absart, qui répertorie principalement les spécialistes de la santé qu'ils ont dans leur région. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu à répertorier tout un tas de professionnels. Donc on a effectivement des psychologues comme des kinésithérapeutes, comme des physiothérapeutes, comme des nutritionnistes, parce que la gamme de soucis peut être complexe. Parfois, on peut se sentir déprimé. Le problème n'est pas forcément une anxiété. Parfois, le problème, c'est qu'on se nourrit mal, qu'on dort mal. Et c'est des choses qu'on ne peut pas savoir par nous-mêmes. Enfin, on ne peut pas toujours s'auto-diagnostiquer. Je pense que c'est bien d'avoir le bon interlocuteur avec lequel échanger. Nous, on a pris le temps d'en rencontrer plein et de pouvoir, soit quand on est contacté via entité Cura, soit directement. Moi, ça m'arrive très fréquemment de recevoir des coups de fil de personnes avec qui je travaille plus ou moins directement, qui se sentent pas bien, ou quoi, un artiste qui se sent pas bien et qui, du coup, ont besoin de savoir vers qui ils peuvent être le mieux redirigés. Et je pense qu'une des parties de la solution pour répondre à la question, c'est de mettre à disposition ces informations, créer un pont, créer des traits d'union, parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour aider ceux qui souffrent.
Je vais donner, Julien, quelques chiffres qui ont été sortis par l'enquête exploratoire inédite en France menée par Cura. 4 personnes sur 5 souffrent d'anxiété, 4 personnes sur 5 se sentent déprimées, 23% des interrogés ont été diagnostiqués d'une dépression. Ces chiffres sont 2,5 fois supérieurs à la moyenne nationale française. On parle quand même de quelque chose d'une gravité exceptionnelle. Est-ce que ces chiffres ont été remontés au ministère de la Culture, par exemple ?
Cette enquête exploratoire, oui, avait eu l'occasion de se retrouver sur le bureau du ministre de l'époque, Franck Riester. Après, je t'en perds encore une fois, mais quand on a lancé cette enquête exploratoire, moi, ça me tenait à cœur d'avoir une forme de réponse à une enquête qui a été menée en Angleterre, les Anglais qui sont un peu pionniers sur ces questions, et qui avait mené une enquête dont on s'est totalement inspiré, je crois, en 2015, qui s'appelle, je sais plus, Health and Wellbeing in the Music Industry, qui est qui a un chiffre qui s'est beaucoup retrouvé dans les médias, qui est que 73% des musiciens sont déprimés, en gros. Nous, ça nous tenait à cœur de faire cette enquête. Moi, je voulais voir si je pouvais avoir un chiffre qui allait dire une autre information que celle-ci. Effectivement, c'est le cas, parce que on a un diagnostic à peu près similaire sur les gens qui se sentent déprimés. Donc effectivement, là, ça va être 4 personnes sur 5 ont ressenti à un moment donné dans leur pratique professionnelle de la musique une sensation de déprime. Mais des personnes qui ont été diagnostiquées, donc qui ont été voir un spécialiste de la santé qui a fait un diagnostic, c'est une personne sur 4 ou 5, je suis très mauvais en maths, je sais plus ce que ça donne.
23% des interrogés. Mais ont été diagnostiqués non pas déprimés, mais dépressifs, oui. Donc une maladie, dépression.
Ce qui fait, je pense, quand même un chiffre moins terrifiant et qui, moi, me donne l'impression que ce sur quoi il faut travailler, c'est aider ces 23%, sans négliger qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont une sensation et qui méritent d'être accompagnés d'une autre manière. Mais il y a principalement ces 23% de répondants qui ont une pratique de ce métier passion qui est visiblement pas correcte parce qu'elle leur fait pas de bien. Et j'ai pas envie qu'on ait un message qui fasse peur aux petits et aux petites qui ont envie de se lancer dans ces métiers-là qui sont quand même des expériences passionnantes. C'est pas pour autant qu'il faut négliger qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal et qui ont besoin d'être accompagnés. Effectivement, ça passe par une action commune, je pense, avec les ministères, ce qui est totalement l'objectif de mener ces campagnes de chiffres. Du coup, cette enquête exploratoire, c'était un premier volet qu'on a mené par passion et bénévolat. Là, on a cet entretien tombe bien puisque nous lançons aujourd'hui même le deuxième volet. Donc cette fois-ci, une véritable étude qu'on mène avec de vrais professionnels et scientifiques qui vont nous permettre d'avoir des chiffres, je pense, encore plus incontestables et qui vont nous permettre d'avoir une conversation, je l'espère, plus directe avec évidemment les ministères, mais les organismes de gestion de la musique, peut-être les instances européennes qui font sens, qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet, pas à échelle simplement française, mais plus globale.
Et pour te quitter, et tandis que la clim se déchaîne alors que dehors il gèle, quelques liens indispensables pour 1. En savoir plus, 2. Avoir peut-être accès à l'annuaire dont tu parlais.
Tout est sur notre site cura-musique.org. Donc évidemment l'enquête et le répertoire. Et donc désormais, à partir d'aujourd'hui, cette nouvelle étude est mise à disposition. Donc il y a quelques questions. Je crois que ça prend 8 minutes, 10 minutes à répondre. Donc en tout cas, les professionnels de la musique et artistes qui souhaitent répondre sont invités à le faire. Moi, étant donné que je travaille principalement dans le rap, je sais que ça me tient vraiment à cœur sur ce genre d'initiative que les musiques plus récentes puissent prendre la parole et donc puissent répondre à ce genre de questionnaire pour que les résultats soient le plus équilibrés possible dans la diversité des genres musicaux. Il y a des solutions qui peuvent exister pour ces genres-là et il faut que la musique électronique, le rap, le métal, tous les genres qui peuvent ne pas être consultés sur ce genre de sujet, je pense qu'il faut qu'ils puissent s'emparer de ces questions et ce questionnaire est totalement là pour eux.
Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, 5e épisode de notre série podcast, cette fois enregistrée à l'Alhambra de Genève, où après Julien Jobert, cofondateur du collectif Cura, nous raconterons à présent Catherine Vazet, psychologue et gestalt thérapeute, spécialiste du burn-out, en question avec elle identifier, déjouer ou encore dépasser le piège du burn-out.
Catherine Vazet, bonjour.
Bonjour.
Psychologue et aussi gestalt thérapeute. Qu'est-ce que c'est gestalt thérapeute ?
Alors gestalt thérapeute, c'est un mot en allemand. C'est une forme de psychothérapie qui permet de tenir compte non seulement du mental, mais aussi des émotions et du corps. Et puis on travaille plutôt le moment présent plutôt que de regarder des choses du passé. C'est très résumé ce que je dis, mais voilà, c'est une forme de psychothérapie.
On est là pour parler du burn-out, c'est un peu le burn-out pour les nuls. Le burn-out, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est ?
Alors en français, on dit épuisement professionnel. C'est dû au stress chronique au travail, Puis quand on dit stress chronique, ça veut dire 6 mois ou plus de stress important. Et ce qui est intéressant de voir dans l'histoire du burn-out, c'est que c'est pas tellement le problème de stresser, c'est le problème de manque de récupération suite aux périodes de stress.
Rien à voir avec une dépression ?
Rien à voir avec une dépression. La dépression, c'est une autre pathologie. C'est différent au niveau biologique, physiologique. C'est pas le même phénomène physiologique. Et c'est pas les mêmes causes non plus.
Quel profil à risque ?
Les personnes les plus à risque, c'est des personnes qui sont engagées dans leur travail, pour qui le travail est important. Je pense que le burn-out ne va pas toucher les personnes fainéantes ou pour qui le travail n'est pas important. Ceux-là, ils auront d'autres problèmes, mais pas le problème du burn-out. Et puis, ça va toucher les personnes qui, dans une entreprise, sont de type fort. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de bien gérer le stress d'habitude, qui vont abattre une lourde charge de travail, en principe, sans difficulté. S'ils avaient une devise, ce serait peut-être « la difficulté me rend plus fort, plus forte ». Donc, ils n'ont pas peur des obstacles et ils ont tendance à essayer de traverser les obstacles, les difficultés, de manière autonome, sans demander d'aide.
Et dans ce que vous dites, j'entends qu'ils entretiennent aussi une image de, justement, personne forte, capable, quoi qu'il se passe, d'abattre cette quantité volumineuse de travail et de surmonter précisément le stress, quoi qu'il en coûte.
Oui, sans se rendre compte que, finalement, elles sont à risque. Puis la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out qui n'ont rien vu venir, en fait. Ça les surprend eux-mêmes, même, d'être en burn-out. Parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver à eux en particulier. Parce qu'ils ne se sentent pas fragiles. Puis c'est vrai que ça ne va pas atteindre... Le burn-out n'atteint pas les gens dits fragiles ou vulnérables. Ça atteint les personnes qui sont, des combattants, en fait.
Quels symptômes ?
Alors, les symptômes, ils peuvent atteindre différents niveaux. Et puis, on peut avoir un profil de symptômes un peu différent selon les personnes. Ça va atteindre, on va avoir un épuisement physique, des troubles du sommeil, ça c'est très important, une fatigue de fond, mais c'est une fatigue de tension, c'est pas une fatigue où on peut se relaxer, c'est une fatigue où on n'arrive pas à dormir, en fait. Il peut y avoir des tensions diverses au niveau du dos, de la nuque, des épaules, des crispations, un manque d'amplitude respiratoire. Donc ça, c'est au niveau corps. Après, il peut y avoir des symptômes au niveau émotionnel. Donc au niveau émotionnel, ça va être un désordre émotionnel. On gère pas la même chose, les émotions. Donc c'est des personnes qui vont être soit plus irritables, soit angoissées, inquiètes, plus inquiète que d'habitude, ou alors un niveau émotionnel un peu toujours le même, un peu une forme sans émotion, avec moins d'émotion. Donc ça, c'est des réactions différentes. Souvent, on parle d'épuisement émotionnel. C'est vrai que ça, c'est pas les émotions qui sont épuisées, c'est juste que le corps, il n'arrive plus à gérer finalement ce qui est émotionnel. Donc il y a un désordre au niveau des émotions. Puis peut-être une catégorie qu'on oublie souvent, mais qui est extrêmement handicapante, c'est une atteinte au niveau intellectuel. Il y a des pertes de mémoire très importantes, une perte de concentration, perte de la vision d'ensemble, donc ça fait que les gens commencent à se désorganiser de plus en plus. Et puis ce qu'on peut voir, c'est plus le stress chronique s'installe, plus la personne essaye de compenser l'inefficacité en travaillant plus d'heures, en s'en surcontrôlant pour éviter des erreurs, ce qui fait encore plus de travail, et une impression aussi de perdre pied ou de s'inquiéter parce qu'on n'arrive pas comme avant. Puis ça, c'est là qu'on voit que c'est pas seulement je stresse et je m'épuise, c'est un syndrome qui s'engendre de lui-même à un moment donné. Plus les symptômes deviennent importants, plus ils engendrent encore d'autres symptômes.
Catherine, est-ce que vous avez constaté des terrains favorables au burn-out ?
Alors, terrain favorable, ça va toujours être multifactoriel, donc c'est jamais une seule cause qui va amener quelqu'un à être en burn-out. D'habitude, on peut voir dans le langage courant, « Ah, mais si je suis épuisé, c'est à cause de mon chef, il m'a donné trop de boulot, je suis en surcharge de travail. » Ou bien on entend aussi « Oui, mais si tu t'es épuisé, c'est normal parce que tu as travaillé aussi à la maison. » Comme si c'était une histoire de volonté. Donc on a pas mal d'a priori, en fait, sur le terrain favorable. Puis en fait, c'est les facteurs de risque, on va les trouver au niveau individuel, donc l'individu qui n'a pas su se préserver, donc qui n'a pas mis en place des choses pour se préserver à son travail, notamment en termes de récupération, pas seulement en termes de gestion de stress. Il y a aussi des facteurs de risque dans l'organisation du travail, donc qui sont où la responsabilité c'est plus l'entreprise ou l'institution dans laquelle la personne travaille, en termes de évidemment surcharge, interruptions trop fréquentes, mauvaise ambiance de travail, manque de reconnaissance, enfin tous ces facteurs-là qui vont influencer, qui rendent un environnement exigeant et toxique en fait. Et puis il y a aussi des facteurs de risque qui sont dus à la société dans laquelle on est. Notre société, elle va valoriser plus tout ce qui est de l'ordre du devoir à accomplir plutôt que du plaisir, en fait. Quand on voit comment on éduque nos enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, j'ai des enfants, puis quand ils étaient petits, on leur disait « tu fais tes devoirs d'abord, après tu pourras jouer ». Donc d'abord accomplir le devoir, et après peut-être prendre soin de soi ou se faire plaisir. Et puis ça, c'est une notion, en tout cas dans notre société. En Suisse, en plus, le travail, il est très, très important. On parle de la qualité suisse. Il y a quelque chose qui est valorisé dans le domaine travail. Et du coup, c'est aussi un facteur de risque supplémentaire par rapport à notre culture, en fait. Puisqu'on les grands traits qui favorisent le burn-out actuellement de notre société occidentale, il y en a peut-être trois principaux. Le premier, c'est la sédentarité croissante. On est de plus en plus sédentaire et dans notre vie privée et au travail. Puis ça pose problème parce que le stress, ça nous prépare à une action physique. Et quand on est trop sédentaire, on n'est plus en activité physique. Du coup, il n'y a plus de porte de sortie pour ces tensions internes. C'est comme si on enlève la soupape de sécurité sur une marmite à vapeur. Il y a un moment donné, ça commence à mettre de la pression dedans et il n'y a pas suffisamment de portes de sortie. Donc la sédentarité, c'est un problème qui est croissant et qu'on voit de plus en plus. Deuxième facteur de risque majeur, c'est les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, ça fait qu'on peut être en contact avec le travail 24 heures sur 24. Et ça, c'est pas du tout comme ça qu'on vivait le travail. Imaginez, il y a 50 ans en arrière, votre travail, comment vous le feriez, il n'y a pas toutes ces technologies. C'était probablement plus facile de séparer ou de préserver la vie privée du travail. Parce que quand on n'y était pas, il n'y avait pas de moyen de nous atteindre dans notre vie privée. Actuellement, on a le bureau dans la poche, on a la possibilité de regarder nos mails, d'être tout le temps dérangé. Donc si on ne le fait pas consciemment, il y aura un envahissement facile du travail dans notre vie privée. Et quand on fait ça, si on se laisse envahir par le travail dans la vie privée, c'est comme si on est tendu dans le travail, on continue la tension dans la vie privée. Du coup, on manque de moments de récupération. Et ça, c'est dangereux, en fait.
Catherine, tu es touchée par un burn-out. Comment est-ce que je peux m'en sortir?
Alors, la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin généraliste. C'est la personne, le professionnel qui doit faire un bilan pour votre santé, pour vérifier si les symptômes viennent bien d'un burn-out et pas d'autre chose. On peut confondre les symptômes du burn-out avec un manque de fer, avec un problème d'apnée du sommeil, etc. Donc il faut pas, ou un problème de thyroïde, par exemple. Donc c'est important de faire un bilan de santé chez son médecin généraliste. C'est le médecin généraliste, normalement, qui va diagnostiquer ou poser une première hypothèse de diagnostic, qui est le burn-out. Et après, ce qui est très important, c'est d'être bien suivi par un psychothérapeute ou un médecin psychiatre qui sait accompagner le burn-out. Il n'y a pas tous les psychothérapeutes formés en thérapie qui peut-être accompagnent bien les gens en dépression. Ils sont pas tous capables d'accompagner le burn-out, qui est une thématique très particulière dans le traitement. En fait, on traite pas du tout la même chose un burn-out qu'une dépression. Du coup, il faut s'adresser au bon spécialiste.
Si vous donnez quelques conseils, le moins possible en fait, mais le plus concentré, pour déjouer, prévenir le burn-out, ce serait lesquels?
Donc, si on aime son travail, il faut absolument régulièrement lâcher son travail, pas seulement au niveau physique, ça veut dire ne pas y être, mais surtout au niveau de la tête. Donc se changer les idées, avoir des ressources, des intérêts divers et variés qui n'ont rien à voir avec notre travail. Entretenir notre réseau de soutien aussi, des liens avec les autres qui nous sont positifs, qui nous aident à nous sentir bien. Se mobiliser dans le corps, avoir des activités physiques, pas forcément sportives, mais surtout beaucoup se mobiliser dans la journée en expirant, et c'est ça qui permet aussi de se libérer du stress régulièrement.
Julien Jobert et Catherine Vazet étaient les invités de ce cinquième et dernier épisode de la série podcast de la santé au travail en milieu culturel, une série produite par FCMA, Arthos, Petzi et Sonart dans le cadre du cycle de conférences Santé au travail, dont le dernier stop tenu à l'Alhambra de Genève le 12 octobre dernier était organisé en collaboration avec le festival Voix de Fête, réalisation Chahut Média, musique Nick von Frankenberg. Plus d'informations sur le programme Santé au travail sur les sites internet respectifs de FCMA, Arthos, Petzi et Sonart. Y attendent également tous les podcasts produits dans le cadre de cette initiative. Notez aussi que cette série se découvre également sur l'ensemble des plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres. N'hésitez pas à la commenter cette série et surtout à la partager. On vous dit merci pour votre fidélité et à bientôt.